De retour à l'émission Au gré du temps de la série Destination Bonheur, notre invité aujourd'hui, Monsieur Michel Clerc, qui a été ministre, mais qui a aussi présidé, au début de l'an 2000, une importante commission d'enquête, ou commission d'études, c'était son titre d'ailleurs, commission d'études sur les services de santé et les services sociaux, qui a légué un rapport qui est même connu sous le nom du rapport Clerc, et dont on parle encore 7-8. Et peut-être que dans 10 ans, on en parlera encore, M. Clerc. Ça a été une étape importante, ça, de votre carrière?
Oui, beaucoup plus importante, d'ailleurs, que je m'y attendais. Et une anecdote, vous savez, du rapport de Michel Clerc avec la santé et les services sociaux. C'est vraiment la santé et les services sociaux qui sont venus à moi par le biais de mon engagement à l'aide juridique. Parce que je n'avais jamais planifier, aller en politique, mais encore bien moins un jour d'être actif dans le domaine de la santé et des services sociaux. Et j'ai résisté, je dirais, à mon destin à plusieurs reprises, parce que c'est peu connu, mais disons qu'à l'époque où il y avait eu la démission en bloc de plusieurs ministres sous le gouvernement de M. Lévesque, M. Lévesque m'avait invité à devenir ministre de la Santé et je lui avais dit, M. Lévesque, je veux vraiment pas y aller, je considère que c'est pas
un domaine d'activité. C'était un monstre, ce ministère-là.
Et j'étais président du Conseil du Trésor à ce moment-là, alors je l'ai fait de façon intérimaire pendant 2-3 semaines au maximum. Alors, je n'y suis pas allé. Par la suite, quand j'ai eu quitté la politique, j'avais jamais envisagé aller travailler dans une association patronale du côté de la santé. Alors, c'est un député de l'Union nationale aujourd'hui défunt, M. Fernand Grenier, qui était à l'Association des centres d'accueil, qui était le nom à l'époque, qui m'a invité et qui a facilité mon arrivée à l'Association des centres d'accueil, ce que je ne recherchais pas. J'y suis resté 7 ans. J'ai dit, je veux aller au niveau du ministère, plutôt du secteur, pardon, des ressources naturelles que j'aimais tant. À ce moment-là, M. Louis Bernard et M. Jean Rochon avaient essayé de me recruter comme sous-ministre au ministère de la Santé, ce que j'avais décliné.
Décidément,
la santé me recherchait. Alors, quand Mme Pauline Marois, qui était ministre de la Santé à l'époque, m'a proposé de présider cette commission d'études, j'ai accepté. Et ma foi, c'est une des décisions dans ma vie que je ne regrette pas.
Et je le dis parce qu'à cette époque, j'étais journaliste et j'ai couvert cette commission. Je vous y ai rencontré d'ailleurs à quelques reprises. Au départ, on était beaucoup sceptiques à l'égard de cette commission. D'abord, par la présidence, parce que vous n'étiez pas quelqu'un qui était associé au domaine de la santé. Il y avait eu aussi le rapport Rochon en 85. En fait, la commission d'enquête Rochon, dont le rapport est arrivé en 87. Par la suite, il y a eu la commission Romano également, sur la santé toujours. Il y avait eu un tas d'enquêtes. Et pourtant, dès les premiers jours de cette commission d'études que vous avez présidée, je ne sais par quelle magie, mais on s'est dit, cette fois, c'est différent. Les gens arrivaient, vous en avez sûrement un souvenir, puis je vais vous entendre là-dessus, mais les gens arrivaient avec des idées, avec des mémoires qui étaient étoffées, et on avait l'impression que cette fois-ci, ce n'était pas bidon. Est-ce que vous faites le même constat?
Oui, oui, et je vais vous dire, pour moi, je m'y suis investi totalement, mais ça n'a pas été que mon succès, ça a été vraiment le succès d'une équipe de commissaires très engagés personnellement, qui ont tous accepté quelques règles du jeu toutes simples, au fond, de dire, nous sommes ici non pas pour représenter des groupes, mais vraiment à titre de citoyen. Deuxièmement, nous n'allons pas nous doter d'un gros service de recherche comme, bon, je le critique pas, mais comme Jean Rochon avait fait au moment de la commission en 85-87.
Plus technocratique, disons-le.
Moi, j'avais dit, on va plutôt faire travailler les services de recherche des principaux détenteurs d'enjeux, de ceux qui sont les principaux acteurs. Et on va les mettre au défi de, eux, nous proposer des choses réalistes pour améliorer le système de santé.
Et ce chantier, on en a encore aujourd'hui des séquelles positives, si j'ose dire. Le mot séquelle n'est peut-être pas le mot juste, mais des effets positifs. On va poursuivre. J'aimerais cependant que vous nous présentiez tout de suite la prochaine pièce que vous avez choisie, qui est associée à un autre grand chantier des années 60, cette chanson de Georges Dor.
La Manique. La Manique de Georges Dor, pour moi, d'abord, c'est vraiment la plus belle chanson qu'est écrite ce petit cousin, parce que Georges Dor est mon petit cousin du côté maternel, exactement. Et pour moi, ça représente aussi la construction plus physique du Québec et toute l'âme, toute l'énergie, la force que des hommes et des femmes ont mis pour bâtir ce pays-là. Donc, pour moi, Georges Dor qui chante La Manique, c'est tout ça que ça représente.
Si tu savais comment on s'ennuie à La Manique, tu m'écrirais bien plus souvent à La Manique, ouragan. Parfois je pense à toi si fort, je regrette ton âme et ton corps, je te regarde et m'émerveille. Je me prolonge en toi comme le fleuve dans la mer et la fleur dans l'abeille. Que devienne quand je suis pas là mon bel amour, ton front doux comme fine soie et tes yeux de velours. Te tournes-tu vers la côte nord pour voir un peu, pour voir encore ma main qui te fait signe d'attendre. Soir et matin, je tends les bras, je te rejoins où que tu sois et je te garde. Dis-moi ce qui se passe à Trois-Rivières et à Québec, là où la vie a tant à faire et tout ce qu'on fait avec. Dis-moi ce qui se passe à Montréal, dans les rues sales et transversales où tu es toujours la plus belle. Car la laideur ne t'atteint pas, toi que j'aimerais jusqu'au trépas, mon éternel.
Quelle chanson magnifique, un extrait cependant, parce que le temps file vite. Avec nous aujourd'hui, Michel Clerc, on parle de cette commission d'études que vous avez présidée sur la santé, 36 recommandations, 59 propositions, et peut-être que les gens l'ignorent, mais on parle beaucoup encore, et particulièrement à cause de cette pénurie de services, des GMF, des groupes de médecine familiale. Mais ces groupes de médecine familiale, c'est votre commission qui les avait proposés.
Oui, tout à fait. Et j'étais très impressionné il y a quelques semaines par une présentation que Mme Lise Denis, qui est la présidente-directrice générale de l'Association québécoise des établissements de santé, le bilan qu'elle dressait des réalisations que les gouvernements successifs ont faites à partir des recommandations de la commission de 2000. J'avoue que j'étais moi-même impressionné parce qu'elle identifiait une bonne dizaine de mesures comme l'approche populationnelle, la fusion des établissements autour de la notion des centres de services sociaux, les GMF, les cliniques médicales spécialisées affiliées, bon, et plusieurs autres.
Mais il y a des choses qui n'ont pas été réalisées. Je pense, par exemple, vous aviez proposé, si ma mémoire est bonne, une espèce d'assurance pour la perte d'autonomie.
Ah, ça, c'est ma tristesse de toute cette histoire
merveilleuse. Parce que vous y teniez, je me souviens fort bien que pour vous, c'était primordial.
Oui, oui, pour moi, la seule déception, parce qu'il y a tellement de raisons de se réjouir du travail que l'équipe des 9 commissaires avons fait. Mais je dirais que personnellement, la déception, de tristesse, le mot est fort, mais la déception, c'est que l'on n'ait pas compris, qu'on n'ait pas saisi l'occasion de la prévoyance qu'il y avait dans cette idée-là, mais que ce qui a été plutôt véhiculé soit une image de taxe sur la vieillesse, alors que c'était totalement à l'opposé. C'était au contraire une mesure de générosité intergénérationnelle qui permettrait et qui aurait permis, là, si on regarde les années qu'on va traverser, par exemple, à partir de maintenant, avec la crise, pas la crise économique, avec les difficultés économiques, je veux dire, on pourrait être
beaucoup... Ce serait encore pertinent.
Ah, ça aurait été, ça serait merveilleux si on avait ça pour, j'allais dire, là, un peu adoucir les difficultés financières du gouvernement par les années qu'on va traverser.
On poursuit les enfants de l'avenir d'Isabelle Pierre. C'est peut-être le vœu qu'elle faisait. Ça ne s'est pas nécessairement concrétisé comme vous le souhaitiez, mais c'est une belle chanson qui vous rappelle une époque bien particulière, votre jeunesse aussi, encore une fois.
Oui, alors j'ai bien hâte de l'entendre.
Les enfants de l'avenir vont savoir comment s'en
Avec nous, Michel Clerc, autrefois ministre et aujourd'hui président du groupe Senna. Alors, la commission d'études sur les services de santé a fait des petits, mais peut-être pas les mesures qui vous semblaient les plus importantes n'ont peut-être pas été mises à jour complètement.
C'est surtout du côté du financement. Parce que du côté de l'organisation des services, la gestion des ressources humaines, la vision qu'il y avait dans... les solutions émergentes, qui était le vrai titre du rapport. Tout ça a été, je dirais, là, vraiment l'inspiration des gouvernements qui se sont succédés depuis. Là où je trouve que les Québécois et les gouvernants, depuis 2000, ont manqué, je trouve, c'est plus du côté du financement. Pour assurer la pérennité du financement de notre système de santé, les règles qui prévalaient sont à peu près encore les mêmes. Nous, on était inquiets de voir que les dépenses risquaient de croître à 5-5,5% par année. À l'époque, on nous avait dit, vous exagérez quand même, là, ce sera pas si pire que ça. Quand on regarde dans le rétroviseur, c'était 6,5% par année. Donc, je trouve qu'on a manqué de prévoyance et je crains que les 2, 3, 4 prochaines années soient encore plus difficiles pour le réseau de la santé, pour le système de santé québécois que les 5-6 dernières.
Mais le constat que vous faites en même temps, on constate qu'on a mis beaucoup d'argent dans le système hospitalier, dans le curatif. On sait que la population vieillit. Bien sûr, le curatif est important. Les technologies médicales, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elles sont performantes, mais elles coûtent très cher. Est-ce qu'avec le vieillissement de la population, on ne devrait pas déplacer ces sommes vers des soins de plus longue durée, où le curatif est peut-être pas aussi pointu, mais où la présence humaine et les investissements doivent être faits également?
Il y a des besoins énormes dans les soins de longue durée, dans les services à domicile, en prévention. Maintenant, quand je dis que la dimension financière n'a pas été ajustée, je ne dis pas nécessairement que tout doit se faire par des ajouts budgétaires. Ce serait un peu technique là, d'entrer dans les modes d'allocation des ressources, les gains de productivité, pourquoi il devrait y avoir une introduction plus grande du privé dans la livraison des services et non pas dans le financement. Ce serait un peu long, mais moi, quand je dis qu'on n'a pas adressé la question du financement, c'est en termes de niveau, de sources de revenus, de modes d'allocation, de programmes d'efficience, de mesures structurantes pour améliorer l'accès aux services. C'est là que je trouve qu'on a manqué au cours des dernières années.
Barbara, maintenant, une petite cantate. Cette chanson qui a été écrite rapidement par Barbara à la suite du décès d'une pianiste qui accompagnait Serge Lama. Et on entend dans cet enregistrement qui a été fait très rapidement l'émotion qui étreint Barbara. Je sais que Barbara, pour vous, c'est une chanteuse qui vient titiller un peu vos oreilles et votre cœur.
J'ai toujours beaucoup aimé Barbara.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, si mi la ré sol do fa. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, si mi la ré sol do fa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà, et je reste malhabile face au dauphin. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon, je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Si mille arrêts, si mille arrêts, si sol dauphin. Si mille arrêts, si mille arrêts, si sol dauphin. Mon ami, ô ma douce, ô ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la, avec mon cœur pour la faire et mes dix doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Si mille arrêts, si mille arrêts, si sol dauphin. Si mille arrêts, si mille arrêts, si sol dauphin. Les anges avec leurs trompettes la joueront, joueront pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la joueront, joueront pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Si mille arrêts, si mille arrêts, si sol dauphin.
Une courte chanson, mais effectivement très, très jolie. Michel Clerc, vous présidez aujourd'hui un groupe privé de santé, alors que vous avez été ministre et un peu à la défense du secteur public. Comment est-ce qu'on peut concilier ce qui semble, à première vue, un paradoxe?
Non, c'est pas du tout paradoxal. Un peu comme je vous disais tantôt, s'il me reste, ce qu'il me reste de la vie publique, c'est le désir de contribuer à l'avancement du Québec et à faire de bonnes choses pour le Québec. Or, la bonne chose que j'essaie de faire présentement, depuis 7 ans maintenant, c'est de construire un groupe québécois de gestionnaires professionnels de qualité dans le secteur privé, mais dans le cadre d'un financement public. Donc, de développer une organisation qui soit privée dans sa gestion, privée dans le financement de ses immeubles, de ses équipements, mais public, cependant, dans le cadre du financement des services qui sont offerts aux citoyens. Donc, vraiment, pour moi, c'est de bâtir une entreprise qui soit partenaire des services publics et non pas du tout qui soit un élément de déstructuration, de compétition avec
Parce
le secteur
cela,
public.
Parce que cela, c'est fondamental.
Oui, c'est fondamental. Moi, personnellement, je suis un grand défenseur du financement public des services de santé. De l'accès le plus universel possible en sachant qu'il y aura toujours des services qui ne pourront être financés entièrement par la collectivité, soit parce qu'ils sont extrêmement coûteux ou soit au contraire parce que chacun devrait faire l'effort de se les offrir en partie. Mais je suis un promoteur du financement public, mais également un promoteur que l'on s'assure que l'on a le maximum de valeur pour l'argent public qu'on investit dans les services. Et l'histoire humaine a démontré que les monopoles, qu'ils soient publics ou privés, ne sont jamais la meilleure façon d'avoir le maximum de qualité, d'efficience pour les argents qui sont investis. Alors, très modestement, notre petit groupe essaie de démontrer qu'on peut faire de la qualité, qu'on peut être partenaire du secteur public tout en ayant une gestion qui est un peu différente de celle du secteur public. Dans le fond, c'est de mettre au profit de la collectivité les caractéristiques propres à la gestion privée.
Vous le dites avec tant de passion et de conviction qu'il est difficile de ne pas y croire. Est-ce que c'est ce qui fait que vous êtes aujourd'hui un homme heureux?
Je suis un homme heureux parce que j'ai la chance d'avoir une conjointe, des enfants, une famille que j'aime, d'avoir ma mère qui vit toujours avec nous à 92 ans bientôt, d'avoir un boulot que j'adore, d'avoir des collègues de travail merveilleux, exceptionnels. Alors, c'est tout ça qui me rend heureux. Alors, et deux enfants exceptionnels aussi.
Alors, vous parlez de bonheur, vous parlez de votre maman. Un petit plaisir de la vie, c'est d'entendre sa maman chanter. Vous nous avez fait ce grand plaisir de nous apporter une chanson que votre maman interprète.
Oui, ma mère a un disque pour diffusion familiale, a priori seulement, en 2000. Elle avait 84 ans. Alors, c'est un cadeau de la vie pour moi de pouvoir entendre ma mère chanter à la radio Ville-Marie.
Et quelle est cette chanson?
Alors, c'est une chanson qu'elle me chantait quand j'étais petit enfant. Ça s'intitule « La colline aux oiseaux ».
Michel, c'est pour toi que je chante ça, cette chanson-là, parce que c'était ta chanson préférée. Et puis ça, je te l'ai chantée, cette chanson. Je t'ai bercé avec ça. Par les monts et les plaines, traînant mes souliers, je chante ton thème le long des sentiers. Je vais boire aux fontaines, je dors dans les blés, beaucoup mieux que le prince dans son lit brodé. Qu'il fait beau sur ma colline, dormir tout là-haut. Là-haut sur la colline aux oiseaux. Tra-la-la, on fait des rêves si beaux. Là-haut sur la tranquille colline aux oiseaux. J'ai connu bien des peines, fait mille métiers. Car son pain tontaine, il faut le gagner. Et je veux pierre à pierre, tout là-haut perché, me bâtir la chaumière dont j'ai tant rêvé. Qu'il fait beau sur ma colline, chanter tout là-haut. Là-haut sur la colline aux oiseaux. Tra-la-la, qu'il fait bon vivre parmi les troupeaux. Là-haut sur la colline aux oiseaux. Lorsque ma maisonnette sera terminée, je sais bien, tontaine, ce que je ferai. J'irai voir ma brunette et tout bas je lui dirai « Voici notre demeure pour l'éternité. » Qu'il fait bon sur ma colline dormir tout là-haut sur la colline aux oiseaux. Tra-la-la, j'attends ma belle qui viendra bientôt. Là-haut, sur ma tranquille colline aux oiseaux.
Quelle belle surprise! Quelle belle voix aussi! Est-ce qu'elle envisage faire carrière?
On lui disait quand elle était plus jeune, mais je pense qu'elle a déjà pris sa retraite. Ça a été une carrière qui a duré un an et demi, puisqu'elle a disqué deux fois pour la famille. Et puis, elle avait vraiment une belle voix, puis elle était une amoureuse de la chanson française, de la chanson américaine. Maman était franco-américaine. Alors, j'ai encore des beaux souvenirs de l'entendre dans notre enfance.
Alors, merci, Maman Claire, de nous avoir fait ce grand plaisir.
Maman Thérèse.
Maman Thérèse, à tous ces auditeurs et auditrices qui vont peut-être nous demander maintenant des copies de cette chanson. Monsieur Claire, c'est presque la fin. J'allais vous demander simplement, parce que vous l'avez décrit un peu en nous parlant de vos enfants, de votre famille et de cette passion encore qui vous anime pour la santé, Si je vous demandais en quelques mots pour vous la définition du bonheur et ce qui vous anime encore.
La définition du bonheur. La définition du bonheur, ben pour moi, c'est un état de plénitude, je dirais. D'avoir une vie qui est complète, je dirais, sous tous ses angles. Maintenant, qu'est-ce qui contribue à tout ça? Qu'est-ce qui me passionne? C'est plein de choses. C'est le travail, c'est la vie familiale, c'est les week-ends à Saint-Michel-de-Bellechasse, c'est de voyager.
C'est la pêche.
C'est de découvrir la curiosité. Je suis aussi curieux à 58 ans que je l'étais quand j'étais un enfant. J'adore découvrir, alors j'adore aussi voyager.
Et vous regardez encore du coin de l'œil le monde politique?
Non, pas du tout, non. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui s'engagent en politique, mais je pense bien que cette partie-là de ma vie est vraiment derrière moi.
On a tourné la page. Oui, oui. Bien, Monsieur Clair, ce fut vraiment un énorme plaisir que de vous recevoir. Je suis convaincu que les auditeurs et les auditrices sont très heureux aussi d'avoir pu entendre vos réflexions sur le domaine de la santé et sur cette période aussi qui a été une période d'effervescence, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup de cette présence et de cette générosité.
Ça m'a fait plaisir.
C'était l'émission Au gré du temps. Nous recevions aujourd'hui M. Michel Clair, président du groupe Senna et qui fut également ministre entre 1976 et 1985. Armand Dubois au micro. Cette émission a été réalisée sous la supervision d'Alain Primeau. Passez une belle semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. Au plaisir. Au revoir.